Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, sachez que vous êtes fichus, car En effet pour s'entendre va devenir le rendez-vous incontournable de vos après-midi. Ici, on partage, on échange et puis surtout, on est toujours bienveillant. On apprend aussi à rendre le quotidien plus agréable et justement, je suis persuadée que le sujet de ce jour va vous être très utile. Les végétaux ont de nombreuses vertus médicinales et ils ne seraient pas en reste en matière de sexualité. Ils se révéleraient être de précieux alliés quand le désir et la vigueur ne sont plus véritablement au rendez-vous. Alors existe-t-il réellement des plantes aphrodisiaques? Comment les utiliser et quels effets en attendre? Aujourd'hui, c'est le docteur Jacques Labesca, qui est médecin phytothérapeute, qui va répondre à toutes nos questions et qui va nous guider sur le chemin du désir à travers les plantes. Docteur Labesca, bonjour, soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors nous, on s'est jeté sur vos ouvrages, Les plantes du plaisir chez Ulmer et ces plantes qui écrivent l'histoire chez Enfortas. En fait, les plantes et l'histoire, c'est une vieille histoire.
Et oui, c'est l'histoire du monde, hein, puisque les hommes ont découvert avec les animaux l'histoire des plantes. Et puis, ils ont vu que si ça marchait sur les animaux, notamment, tiens, vous en voulez une tout de suite là?
Ah bah oui, on en veut une. Allez, oui.
La sarriette.
Enfin, ça dépend d'une histoire, oui, une
la
plante.
La sarriette,
oui.
Une plante, oui, oui, une plante qui est chargée d'histoire.
La sarriette.
La sarriette. Vous savez que son nom en latin signifie satyre de montagne. Satureia montana. Alors déjà, tout un programme. Hein.
Mais c'est aphrodisiaque, ça, la sarriette?
Et oui, parce que satyre de montagne.
Ouais.
Et satyre de montagne et en...
Mais satyre, satyre...
Satyre dans tous les coins, oui.
Ah, non, ça, c'est comme ça, c'est dans le satyre comme
et
ça.
Oui, parce que les ânes qui mangent la sarriette sont attenables. Et
ah,
c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle aussi poivre d'âne.
D'accord.
Et elle était devenue le poivre de moine, à tel point que Saint Benoît a interdit la sarriette dans les monastères.
Extraordinaire. Donc ça veut dire que la sarriette en fait provoque une érection clairement
et
chez
et
l'homme.
Voilà. Et voilà, c'était le poivre de
moine.
C'était
en regardant les ânes que les hommes ont réalisé que
ils ont vu que ça avait un effet sur les ânes et comme les hommes sont des fois des ânes, et ben voilà, ça marche.
Ah ben voilà. Bon, ça vous donne une idée du tour de l'émission en tout cas aujourd'hui. Donc les vertus aphrodisiaques des plantes, elles sont réelles?
Oui, tout à fait. Alors elles agissent de deux façons. Au niveau de la libido, elles agissent soit au niveau hormonal, c'est-à-dire sur l'hormone de la libido qui est la testostérone, valable aussi bien chez la femme que chez l'homme d'ailleurs, hein, et chez les hormones en général. Ça, c'est le premier mode d'action. Le deuxième mode d'action, c'est de provoquer un afflux sanguin au niveau des organes érecteurs, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui permet donc de faire monter le désir.
Ok, d'accord.
Donc c'est tout à fait avéré. Hein.
Et les hommes et les femmes sont concernés de la même façon par ces plantes? Enfin, en tout cas, les utilisent de la même façon?
Oui, pratiquement toutes. Pratiquement toutes, sauf certaines, dont on parlera, qui sont plus féminines ou plus masculines, mais en général, elles sont bisexes, oui.
Docteur Labesca, est-ce que certaines plantes ont un effet immédiat ou est-ce qu'il faut en prendre beaucoup et d'une façon régulière? En deux mots, est-ce qu'il faut se préparer pendant des semaines ou est-ce qu'il suffit d'en prendre une fois pour que ça marche?
La préparation est toujours essentielle, mais...
Parfois, on ne prévoit pas non plus.
Oui, on ne prévoit pas. Alors, mais les plantes sont à l'action immédiate, surtout celles qui ont une action vasodilatatrice, leur action est tout à fait immédiate. Quand c'est une action hormonale et qui a, par exemple, un défaut de testostérone, là, c'est quelquefois plus long parce qu'il faut relancer un petit peu la machine.
On va en parler avec Thelma, si vous le voulez bien, parce que Thelma est en ligne avec nous. Bonjour Thelma.
Bonjour.
Ça
bonjour
va,
madame.
Thelma
Oui, ça va, merci.
Quel âge avez-vous, Thelma?
J'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans, donc c'est vous qui vous apprêtez à passer un week-end en amoureux. Et vous avez cherché à nous joindre, parce que, enfin pas à me joindre moi, parce que moi je ne vais pas forcément vous aider, mais à joindre le docteur Labesca. Donc je vais vous laisser nous expliquer la situation, Thelma.
Alors effectivement, je vais partir bientôt un week-end avec mon amoureux. Et en fait, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, mais les ébats entre nous sont assez furtifs. Enfin, ça dure jamais très longtemps. Et du coup, je me suis dit que peut-être avec des plantes aphrodisiaques, il y avait peut-être des recettes ou des effets miracles pour que justement ça dure un peu plus longtemps.
Alors, pardonnez-moi, je vais vous poser clairement la question, Thelma. Est-ce votre compagnon qui ne maintient pas ses érections? Enfin, je veux dire, quand vous dites que c'est furtif, c'est que lui rencontre certaines difficultés?
Oui, voilà, c'est ça, c'est que ça dure pas longtemps, hein, principalement à cause de lui.
C'est frustrant.
Oui, complètement.
Vous en avez parlé avec lui?
Un petit peu, mais bon, ça reste. Vu que ça fait pas très longtemps non plus qu'on se connaît, j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise par rapport à ça. Donc je me dis peut-être avec le temps, ça va être mieux. Mais si on peut accélérer un peu.
D'accord, le process.
C'est ça.
Non, mais en fait, c'est intéressant parce que ce que j'entends là, alors ça peut arriver les premières fois, pardon, mais alors là, pour le coup, parfois, quand on fait connaissance et tout, il peut se passer des petits problèmes. Mais si j'entends bien, c'est que là, vous allez essayer de booster les choses un peu dans son dos, un peu à son insu, c'est ça?
Oui.
Ah, voilà, c'est parce que j'ai compris, quoi.
C'est ça.
C'est un courage féminin.
Bah oui, mais c'est super, moi, je trouve, parce qu'elle prend soin de son homme en lui donnant donc des plantes. Hein. C'est là, vous allez concocter un petit menu, vous vouliez savoir...
C'est ça, mais de manière subtile, c'est-à-dire que je ne me vois pas trop lui emmener une tisane de gingembre. Enfin, c'est un peu...
Le gingembre, c'est ça.
Le gingembre, pourtant, clair, pour les pâtes sexuelles, c'est excellent. Oui,
mais je rejoins Thelma, ça fait super. Tiens, je te file ta tisane de gingembre avant l'amour. Ça veut tout dire, ça
oui,
parle.
Surtout si c'est une décoction. Non, mais on peut faire du gingembre en poudre. On peut lui donner en poudre.
Mais ça a goût de gingembre. On va pas lui donner, tiens, prends ta cuillère de gingembre en poudre, docteur Labesca.
C'est sûr.
Alors, comment on peut aider Thelma,
vous allez faire prendre à l'amoureux un bain d'avoine, par exemple.
Ah, alors expliquez-nous le bain d'avoine.
Le bain d'avoine, c'est amusant, mais c'est pas non plus très anodin. Hein,
ouais.
De mettre de l'avoine comme ça dans un bain, c'est à la fois, c'est là où la plante est très intéressante parce qu'elle est adaptogène.
Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. On va tous imaginer qu'on va prendre un bain d'avoine. Après, on va être tous comme des fous. Thelma, vous restez évidemment en ligne avec nous. On se retrouve avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL. Et puis, je pense qu'on va tous prendre des notes parce qu'on va tous passer un super week-end grâce à Dr Labesca. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Allez, on va tout de suite rentrer dans le bain avec vous, docteur Labesca. Vous êtes notre invité, vous êtes médecin phytothérapeute, auteur d'un ouvrage « Les plantes du plaisir » chez Ulmer. Et nous sommes en ligne avec Thelma parce qu'aujourd'hui, on se pose la question « Est-ce que les plantes sont réellement aphrodisiaques ?» Vous nous avez dit oui, donc maintenant, lesquelles? Vous allez nous répondre jusqu'à 16h. Thelma, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
On va faire un petit résumé pour ceux qui arriveraient tout juste dans notre émission. Thelma, vous venez de rencontrer il y a quelques semaines un jeune homme. Il se trouve que vos premiers ébats sont certes très agréables, mais visiblement assez rapides et furtifs parce que ce jeune homme n'est pas en mesure de maintenir sa vigueur tout le temps que vous le souhaiteriez. Et là où vous êtes rusée, Thelma, c'est qu'au lieu de lui en parler directement, vous vous dites qu'en passant par une petite décoction ou quelques plantes aphrodisiaques, ça pourrait changer la donne. C'est ça, hein, Thelma?
Exactement, exactement.
Et il y a un instant, le docteur Labesca, alors moi, on m'a jamais proposé ça, vous a proposé de lui préparer un bain d'avoine. Est-ce que vous trouvez ça glamour déjà à la base?
Moi, ça me plaît beaucoup.
Ah super, très bien. Non, parce qu'en moi, un bain d'avoine...
C'est très sympa et puis ça me permet aussi de participer avec lui, non? Je trouve que c'est une bonne idée.
Alors, docteur Labesca.
Parce que l'idée, c'est de faire naître le désir aussi. Parce qu'il peut y avoir des blocages psychologiques, il peut y avoir un tas de choses. Donc le bain peut être un lieu où on se détend.
C'est vrai.
Et où on peut se tendre.
Oui, c'est ça.
Et l'avoine... J'aurais pas osé.
Mais vous l'avez fait.
Je l'ai
alors.
Fait. Bon,
et l'avoine, ça
l'avoine est un stimulant. Est un stimulant excellent qui est une plante adaptogène, comme beaucoup de plantes. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre, dans un premier temps, de vous détendre, ce qui est très bien. Mm-hmm. Donc prendre un bain, que Thelma prenne un bain avec son compagnon, ce sera très agréable.
Oui, c'est vrai.
Et ça va lui donner de la vigueur. D'ailleurs, on donnait de l'avoine aux chevaux pour qu'ils soient plus vigoureux.
D'accord. Les Gaulois aussi consommaient pas mal d'avoine.
Alors, les Gaulois ne consommaient pas directement de l'avoine. Ils consommaient les grenouilles qui mangeaient des insectes qui étaient dans l'avoine. Voilà, c'est ça. Et lesquels insectes, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était de la cantharide. C'est pour ça que quelquefois, on avait parlé des huîtres comme étant aphrodisiaques, parce que les huîtres peuvent avoir cette cantharide aussi. Mais bon, il faudrait manger vraiment beaucoup, beaucoup de fines de clair pour arriver à avoir l'effet aphrodisiaque. Non, mais le bain d'avoine, vous prenez 150 grammes d'avoine, décoction, infusion.
Alors attendez, décoction, infusion, je ne sais pas
vous
tellement,
bouillir,
moi je ne connais pas.
Hein. Vous faites bouillir pendant 20 minutes pour une décoction.
Oui.
Voilà, dans un litre d'eau, vous mettez 150 g d'avoine, vous le faites bouillir pendant 20 minutes. Ensuite, vous le laissez infuser pendant 10 minutes. Ensuite, vous ne le mettez pas dans le bain, vous mettez le résultat, le liquide, dans l'eau du bain. C'est
d'accord.
Pour ça que là, c'est vraiment très glamour, il n'y a aucun problème.
D'accord.
Je
ne
sais pas
oui,
où vous rendez-vous, un bain dans l'herbe. Non,
pas
avoir un bain dans l'herbe.
Et donc ça
va... détend.
Oui, non, mais ça
d'accord. Permet de détendre comme le tilleul, un peu comme les bains de tilleul autrefois chez les enfants.
Oui.
Donc ça va permettre de détendre, parce que quelquefois, il y a des blocages qui évitent justement... Il suffit d'avoir eu une panne sexuelle une fois, pour oui. avoir un blocage après d'autres fois.
D'accord, donc là ce que vous nous expliquez, c'est qu'à travers ce bain d'avoine, on va participer à la détente de ce jeune homme.
Absolument.
Alors maintenant, pour que ça tienne et que ça dure.
Toujours le bain d'avoine.
C'est-à-dire non, que... mais vous n'avez pas autre chose, elle ne peut pas lui proposer.
Oui, mais alors, elle ne veut pas que c'est mauvais goût. Alors, le gingembre, c'est difficile. La sarriette, mais la fusion de sarriette, ce n'est pas très glamour non plus, hein, faire une infusion de sarriette. Après, on peut prendre toutes les autres, les gélules, ça va être plus difficile à masquer.
Oui.
Non, moi je trouve que le bain, ça réunit les bonnes conditions.
Pour
et après,
faire
un petit repas en amoureux.
Là, vous faites un repas avec du gingembre, ça c'est super.
Voilà,
les menus
taille
et tout avec du gingembre. Donc vous avez compris, pour la jouer fine en tout cas, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous ne pouvez pas lui proposer la tisane tout de suite. Donc vous passez par le bain et puis à Amy, vous agrémentez le menu. Exactement. Juste une dernière question sur l'avoine, docteur Labesca. Quand on en prend, moi j'en prends tous les matins au petit déjeuner, ça ne me donne pas forcément envie de sauter sur mon voisin de bureau.
C'est stimulant. En revanche, la sarriette ou le tribulus, vous en prendriez beaucoup, oui, ça pourrait vous donner envie.
D'accord. Eh ben,
mais
on va
après, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme réfléchit.
Mmh. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, quand
la femme, je ne sais pas, mais l'homme réfléchit.
Oui, c'est ça. Oui, on va en reparler. On va en reparler. On va parler de l'angélique aussi. Écoutez, Thelma, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis un bon week-end, évidemment.
La vie.
Oui.
Excusez-moi, j'avais une dernière question.
Oui,
j'en profite pendant que le médecin
Allez-y.
Est là. Vous allez me trouver peut-être un peu stupide, mais j'ai une copine qui m'a dit que le cornichon, ça pouvait avoir des effets aphrodisiaques. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
C'est une bonne copine ou pas? Oh, dis donc, docteur Labesca. Non, ce n'est pas un sextoy.
Non, mais
attendez, c'est une bonne copine ou pas qui vous a dit ça, Thelma?
Bah, plutôt, oui.
D'accord. Alors, sérieusement.
Non, peut-être que dans la préparation des cornichons, si on met des clous de girofle, qu'on met des baies de genièvre, il y aura peut-être à l'effet induit, mais le cornichon en lui-même, c'est pas médicalement reconnu.
Bon, ça peut être d'accord. bon, le cornichon, mais en tout cas, c'est pas aphrodisiaque, Thelma, d'accord? Voilà, il y a des idées reçues comme ça qui se baladent aussi sur certains aliments, donc au moins, c'est bon de le savoir.
Donc,
pas de cornichon, du lait d'avoine, et puis surtout beaucoup d'amour, et on vous souhaite plein de bonnes choses, Thelma. Merci pour votre appel.
Beaucoup.
Salut, Thelma, au revoir.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, on s'est occupé du cas de Thelma. On va s'occuper maintenant de celui de nos autres auditeurs qui s'interrogent aujourd'hui sur les plantes aphrodisiaques, docteur Labesca. Dans les anecdotes que vous racontez dans votre ouvrage « Ces plantes qui écrivent l'histoire », on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient recours aux plantes pour leur vigueur sexuelle.
Et oui, parce que le mâle doit pouvoir assurer. Et le phallus est important dans la génération. Mais bon, en général, on se rend compte que ce n'est pas un problème uniquement masculin. C'est ça qui fait la spécificité, c'est que la testostérone, qui est l'hormone de la libido, elle est présente chez la femme. Elle est présente chez la femme, en moins grand nombre, bien sûr. Et c'est quand il y a une baisse de testostérone qu'en général, il y a une baisse de la libido. Et il y a des plantes remarquables contre la testostérone, enfin pour la testostérone.
Lesquelles ?
Le tribulus. Alors ça, c'est une plante qui est très drôle. Elle s'appelle la croix de Malte. Alors, la croix de Malte qui donne du sexe, ça fait un petit peu
c'est antinomique.
Vu les chevaliers, voilà. Mais elle s'appelle la croix de Malte parce que simplement elle a une forme de croix de Malte. Et on se rend compte qu'elle stimule la fabrication de testostérone. Et donc une expérience a même montré en double aveugle que les femmes qui prenaient de la croix de Malte, donc du tribulus, avait une libido tellement exacerbée qu'il a fallu très vite en donner au mari sous peine de rupture de couple.
Oui, il fallait que les hommes suivent le désir de la femme. Donc, pour les hommes, ça agit sur le désir et ça agit sur la qualité de l'érection et le fait d'être vigoureux aussi longtemps qu'ils en ont envie. Et pour les femmes, ça agit principalement sur le désir.
Absolument.
D'accord.
Et puis aussi sur l'atrophicité au niveau des muqueuses. Parce qu'il y a certains âges où l'atrophicité muqueuse est moins bonne, où il y a une sécheresse vaginale, où il y a des troubles, notamment au moment de la ménopause. Et là, il peut y avoir des plantes qui aident, parce que c'est vrai qu'une sécheresse vaginale, des troubles, des infections,
ça altère le plaisir.
Ça altère, tout à fait.
Le plaisir et le désir. Alors, on a Solange qui nous a laissé un message pour nous parler de l'angélique. L'angélique qui nous enverrait au 7e ciel, c'est vrai ça ?
Alors oui, et moi je la conseille même en gel, en huile de massage.
Okay.
En huile de massage.
C'est quoi ? C'est sous forme d'huile essentielle ? C'est...
Voilà, on prend de l'huile essentielle d'angélique. Alors, vous savez, les huiles essentielles, jamais pures, jamais chez la femme enceinte.
Avec de
jamais...
l'huile d'amande.
Voilà. L'huile d'amande, ou moi, je mettrais de l'huile de millepertuis.
Ok.
L'huile de millepertuis, parce qu'elle va être encore plus stimulante.
Ok.
Voilà,
d'accord.
Donc on fait à peu près 10% d'huile essentielle d'angélique. Vous mettez 10% d'huile essentielle d'ylang-ylang. L'ylang-ylang, cet arbre qui vient de Mayotte, Madagascar, et dont les fleurs provoquent une belle huile essentielle. Et puis donc l'huile de millepertuis.
Mais voilà. On en fait quoi de ces huiles, excusez-moi, mais
On masse plutôt les parties inférieures du corps.
Et on fait des caresses avec ses huiles.
Voilà, absolument. Ça fait partie des prémices, effectivement.
D'accord,
ça marche,
donc les préliminaires.
Et ça provoque, alors ça va provoquer un besoin et en même temps, ça va faire un échauffement naturel.
Ça brûle pas ?
Non.
D'accord. Ah, non, mais c'est sans danger, quoi.
Non, à condition de pas les mettre purs, hein. Okay. Pas les mettre pures, attention, c'est ça. Jamais pures, les huiles essentielles.
Ces huiles essentielles, on les trouve en pharmacie ?
Oui, alors là, attention, il faut être un peu, difficile parce qu'il faut une qualité. Il faut une bonne qualité parce que c'est une forme concentrée de plante. Et donc, attention, et demandez bien conseil parce que celle que je donne là, l'huile essentielle d'Angélique, ne pose pas de problème, ylang-ylang non plus. Il y en a qui peuvent être photosensibilisantes, par exemple. Si on s'expose au soleil après, ça peut provoquer des problèmes. Il y en a qui peuvent être dangereuses, on peut tuer avec l'huile essentielle de sauge. Oui, donc il faut faire très attention aux huiles essentielles. Mais là, en gel, enfin d'huile de massage, c'est très bien.
Parlez-nous de Maïlis, la sorcière, justement, qui était au XIVe siècle. Faites-nous un petit cours d'histoire.
Ah là là, c'était une sorcière qui était dans le sud-ouest de la France. Hein. Et l'angélique est une plante qui pousse dans les marais. Hein, notamment en Vendée. En Vendée, d'ailleurs, on s'en sert même comme confiseur, comme confiserie. On met des tiges d'angélique confites sur les desserts. Et Maïlis, elle récupérait les enfants de sexe féminin, parce qu'on abandonnait souvent, surtout quand il y avait une période de crise ou quand il y avait une période de famine, on abandonnait surtout les petites jeunes filles parce qu'elles ne présentaient pas un grand intérêt au niveau de la ferme. Et elle les stimulait pour qu'elles produisent des hormones. Et avec ces hormones, elle fabriquait une préparation qui était pour les femmes, pour aider la préparation anti-âge, parce que c'était déjà à l'époque très important. Et c'était notamment à base d'angélique et de consoude.
Ah, le fameux consoude. Alors, j'ai découvert ça dans votre ouvrage.
La consoude est une très belle plante qui, Ambroise Paré disait que la consoude mise au milieu de viande hachée pouvait reconstituer un steak intégral.
C'est incroyable.
C'est-à-dire, c'est un très, très bon cicatrisant. On disait que des bains de consoude pouvaient reconstruire un hymen.
D'accord. Ok.
C'est quand on avait fait Pâques avant les rameaux.
D'accord, donc ça c'était effectivement pour reconstruire la virginité.
Voilà, pour reconstruire la virginité, effectivement. Je ne crois pas que ce soit vrai.
Bon, bah écoutez, on va se retrouver dans un instant, on va parler du gingembre. Mais auparavant, une question, on est le 1er mai aujourd'hui, le muguet, c'est aphrodisiaque ou pas ?
Bah, je voudrais tripoter le bras de muguet que je vous ai apporté, là, attention. Attention, non, c'est très toxique.
Pourquoi ?
Très toxique, eh bien parce qu'il y a des substances dedans qui sont très efficaces au niveau du cœur. On l'a utilisé d'ailleurs, le muguet, comme calmant au niveau du cœur, il ralentit le cœur. Mais il ne faut pas toucher ni les clochettes, ni les tiges, pas les baies, et ni boire, surtout pas boire, l'eau dans laquelle s'est trouvé le muguet. Parce qu'il y a des substances effectivement cardiotoxiques.
Et qu'est-ce qui peut
nous
arriver ?
C'est une plante toxique. Ben, ça peut ralentir le cœur jusqu'à l'arrêter. Il y a de l'aspartéide, effectivement, qui est un produit toxique. Il y a des plantes toxiques.
Joyeux 1er mai.
J'aurais dû vous apporter plutôt de la violette ou de la capucine. Ça aurait été mieux.
Pourquoi ?
Parce que vous n'auriez pas eu de risque.
Ah oui, c'est ça,
La capucine et la capucine est en plus aphrodisiaque.
D'accord, alors méfiance, non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites sur le 1er mai, parce que tous les enfants qui vendent leurs petits brins de muguet,
qui se lavent bien les mains,
vous vous lavez les mains, les enfants, et vous ne mangez pas les cloches. On se retrouve dans un instant, on va parler du gingembre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent. Et puis alors, le bois bandé, moi j'ai réalisé que c'était vrai, je pensais que c'était une blague, le bois bandé, le nom. Vous allez nous expliquer pourquoi. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, j'ai rangé mon brin de muguet. Faites attention, vous l'avez compris. Aujourd'hui, le docteur Jacques Labesca est notre invité jusqu'à 16h. Docteur Labesca, on a un message de Claude. Claude qui nous demande pourquoi le gingembre est-il considéré comme le plus grand des aphrodisiaques ? C'est vrai que c'est le truc classique, en fait.
C'est avec le ginseng, effectivement, ce sont des très très bons aphrodisiaques parce que ça donne une tonus et vraiment une force très importante.
Ça, c'est plus pour les hommes.
C'est plus pour les hommes, effectivement. Mais l'avantage du gingembre, par exemple, c'est qu'il est aussi digestif. Et il est même aussi anti-vertigineux.
Donc il faut prendre du gingembre en fait.
Donc vous voyez, pour le vertige de l'amour, il n'y a pas de problème.
Ouais, très bien. Et le ginseng, alors ginseng,
ce sont les mêmes propriétés.
On appelle ça la racine de l'homme ?
Absolument, ce sont les mêmes propriétés. Okay. Tout à fait pareil.
On en met partout ?
Oui, il faut en prendre quand même pas mal. Hein. Pour avoir l'effet aphrodisiaque, il faut en prendre à peu près 10-12 grammes par jour.
Ça fait quoi 10-12 grammes ?
Ça fait une grosse cuillère à café.
Ah oui, d'accord.
Cuillère à café.
Ça se présente sous poudre.
Voilà, c'est de la poudre de racine. C'est de la poudre de racine que l'on peut prendre comme ça, que l'on met dans l'aliment, ou que l'on prend en infusion ou en décoction.
Directement.
Voilà, dans de l'eau et que l'on prend, que l'on boit, absolument.
Ok. Le bois bandé. Alors, le bois bandé, moi j'avais l'impression que c'était très exotique et que c'était quelque chose de presque imaginaire. D'abord, le nom bois bandé.
Mais vous avez raison, il est imaginaire parce qu'à force d'être exploité, il n'existe plus l'arbre. L'arbre a été tellement surexploité, un peu comme le rhinocéros. Hein.
Ça venait d'où ?
Ça venait de Madagascar, tout l'océan Indien, il y avait du bois brandé, il n'y en a plus.
Ça se présentait comment ?
Alors c'est l'écorce, on utilisait l'écorce, on en faisait une décoction, puisque vous savez, tous les produits durs, comme les racines, les écorces, ce sont des décoctions, et on buvait ces décoctions. Et il y a eu une telle publicité, il y a eu un tel engouement sur le bois brandé, qu'il n'y a plus de bois bandé.
Ça s'appelait bois bandé avant qu'on en connaisse les effets ?
Oui, absolument.
C'est pas devenu du bois bandé parce que tout à coup on a vu que ça marchait.
Non, ça s'appelait comme ça déjà avant. Oui.
Il y a beaucoup de plantes comme ça qui ont disparu et qui étaient des stimulants aphrodisiaques, sexuels.
Je vous sens intéressé là.
Oui, ça m'intéresse. C'est un peu le but de notre émission quand même, docteur Labesca.
Des plantes qui ont disparu, oui, mais il en reste. Hein. Il en reste suffisamment.
Mais qui sont celles qui ont disparu comme ça ?
Est-ce qu'il y a la mandragore.
Oui.
Est-ce que vous connaissez la mandragore ?
C'est très joli comme mot.
C'est joli la mandragore. Et longtemps, on a cru que c'était une plante mythique. C'est-à-dire qu'elle poussait sous le gibet des pendus. On disait même, alors c'est là qu'est venue son histoire aphrodisiaque, c'est qu'on disait que c'était l'érection terminale du pendu qui provoquait la sécrétion, enfin le départ de la mandragore. Et alors vous savez que pour arracher la mandragore, parce que c'est du racine, hein, la mandragore. Pour l'arracher, il fallait attacher la racine à la queue d'un chien, à la pleine lune, et l'attirer avec un os pour lui faire arracher. Et seulement, il en mourait. C'était toute une symbolique. Hein.
D'accord, il y avait une sorte de tradition,
absolument,
un rituel pour sortir la mandragore.
Pour arracher la mandragore, parce qu'on disait que si on l'arrachait soi-même, on en mourrait. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des racines de mandragore, on en voit parce que ça existe. Hein. D'ailleurs, au conservatoire à Billy-la-Forêt, il y a un très beau conservatoire botanique, hein. Eh bien, on en voit de la mandragore. Ça a une forme humaine. C'est vrai que c'est très étonnant, ça a vraiment une forme humaine. Un corps, deux jambes, deux bras, enfin c'est vraiment une forme humaine de racine. Et donc d'où cette ambiance autour de la mandragore. Mais franchement, elle n'est pas aphrodisiaque. Déjà, elle n'est pas belle. C'est une plante qui n'est pas belle du tout et puis il n'y a pas de propriété dans... ça fait partie des erreurs de l'histoire.
Est-ce qu'elles sont chères toutes ces plantes aphrodisiaques ?
Non, pourquoi ? Elles sont chères au
cœur. Non, parce qu'on va parler du safran, par exemple. C'est aphrodisiaque ou pas, le safran ?
Oui, le safran est aphrodisiaque. Le safran est aphrodisiaque parce qu'il y a des composants dedans qui sont stimulants au niveau des hormones, là, cérébrales. Des amphétamines, vous savez, toutes les sécrétions, dopamine, sérotonine, voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'il agit. Donc le safran, effectivement, est un psychostimulant. Donc, évidemment, un stimulant sexuel aussi. Mais vous avez une forme, le safran des Indes, qui est le curcuma. Vous avez le curcuma qui a le même effet que le safran. Mais si le safran est cher, c'est qu'il faut 140 000 fleurs pour faire 200 grammes de safran.
Oui, et puis en plus, c'est vrai que la cueillette est extrêmement minutieuse. Et toutes ces plantes, on peut les mélanger ensemble pour faire un effet bœuf, un super cocktail.
Je ne sais pas ce que vous entendez par effet bœuf, mais ou un effet taureau.
Je ne sais pas, pour faire un super cocktail, mettre du safran en même temps, du ginseng, du bois bandé, il n'y en a plus, mais un peu de gingembre.
C'est-à-dire que si vous en prenez qui ont des vertus différentes, oui. Sauf que si elles ont le même mode d'action, ça ne sert à rien.
Okay.
Ça sert à rien, il n'y aura pas de synergie.
D'accord. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur RTL et nous allons pouvoir recevoir une auditrice qui a des questions à vous poser. A tout de suite.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Docteur Labesca, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et je vous présente Nicole qui est en ligne avec nous du Périgord. Nicole, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Nicole. Merci d'être avec nous.
De rien, bonjour à vous.
Alors, bonjour. Je vous présente le docteur Labesca qui, depuis le début de cette émission, nous livre des conseils sur les plantes aphrodisiaques ou comment booster notre désir et les moments que nous pouvons passer, les moments d'amour. Vous aviez des questions à poser à ce sujet-là, en fait, Nicole. Déjà, vous consommez des plantes ?
Oui, tout à fait. Je suis très phytothérapie.
Oui. Vous les consommez de quelle façon ?
La plupart du temps, en infusion.
Ok, d'accord. Et vous allez les chercher vous-même ou vous les achetez en pharmacie ?
Les deux.
Ok, d'accord. Quand vous allez les chercher, vous prenez quoi ?
Je prends en bio en général.
Ouais.
Je prends de la sauge, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas forcément des plantes aphrodisiaques que j'achète.
Et alors donc, vous vouliez poser des questions sur les plantes aphrodisiaques au docteur Labesca ?
Voilà.
Très bien. Eh ben, vous savez quoi, on va profiter justement de vos questions pour en apprendre un petit peu plus. Nicole, je vous en prie, expliquez-nous les questions que vous vous posez.
D'accord. Je me demandais si les plantes aphrodisiaques étaient dangereuses pour la santé.
Alors, docteur Labesca.
Pas plus que les autres.
D'accord.
Pas plus que les autres, vous prenez de la sauge. Vous savez que la sauge, par exemple, elle n'est pas indiquée si vous avez eu des problèmes hormonaux.
D'accord.
notamment si vous avez une tumeur hormono-dépendante. Alors, je suis désolé, je fais de la médecine. Hein. Avant tout, je suis médecin, même si j'utilise beaucoup les plantes. Nous sommes quand même au 21e siècle et on doit être sérieux. Donc, la sauge est dangereuse à forte dose, notamment en huile essentielle. Si on a eu un cancer hormono-dépendant, par exemple un cancer du sein, on ne doit pas prendre de sauge. Comme le houblon, comme d'autres plantes œstrogéniques. Puisque, comme il y a beaucoup de tumeurs qui sont hormono-dépendantes, vous savez qu'on fait maintenant, on étudie les marqueurs, savoir si la tumeur, elle résiste ou pas. Enfin bon. Et ben, il faut pas prendre même des plantes. Hein, les plantes, c'est pas anodin. C'est de la médecine. Alors, pour les plantes aphrodisiaques, après, ça dépend de chacune. Le millepertuis, par exemple, qu'on peut considérer comme plante aphrodisiaque puisqu'elle est stimulante, vous savez qu'elle est contre-indiquée avec les antirétroviraux, si on a VIH. Elle est contre-indiquée avec les antidépresseurs classiques, puisqu'elle est elle-même antidépresseur. Et elle est contre-indiquée avec certains médicaments.
Mais on ne nous l'indique pas tout ça. Enfin, si. Je ne sais pas, vous êtes informé là-dessus, vous, Nicole ?
Pas trop, non.
Bah non, je suis d'accord avec Nicole.
Parce qu'elle ne lit pas mes livres.
Voilà.
Si je lisais les livres.
Docteur Labesca, quand on achète des plantes, moi, il m'arrive aussi d'en acheter comme Nicole pour faire des tisanes. Je n'ai pas derrière une étiquette qui me dit attention, si vous avez eu un cancer, évitez cette plante.
Voilà, et bien vous me tendez la perche, si je peux me permettre, sur les plantes aphrodisiaques. C'est un peu facile, oui, d'accord, mais enfin bon.
Mais poursuivez quand même.
Allez. Et bien oui, il est dommage qu'on n'ait plus d'herboristes.
Oui, c'est ça.
Il est dommage qu'on n'ait plus d'herboristes parce que les plantes médicinales doivent être vendues par les herboristes, pas des pharmaciens qui ne sont pas tous très motivés et qui ne connaissent pas tous nécessairement ou qui n'ont pas envie de s'embêter.
Donc, ce que vous nous expliquez en fait pour Nicole qui nous demande si les plantes aphrodisiaques sont dangereuses pour la santé quand on en consomme beaucoup, c'est que non, il n'y a pas d'inquiétude. En revanche, il peut y avoir des contre-indications en fonction de son propre parcours médical.
Absolument. Mais aussi, il peut y avoir, par exemple, on a parlé du curcuma, le safran des Indes. Le curcuma ne doit pas être utilisé si on est sous anti-vitamine K, sous anticoagulant, parce qu'il y a de la vitamine K et donc on ne peut pas. Voilà, c'est une médecine, et notamment quand on utilise les huiles essentielles, il faut faire très attention, c'est une forme concentrée.
Nicole, une autre question pour le docteur Labesca ?
Oui, moi par exemple, je souffre d'hypertension, donc c'était savoir quelle plante, effectivement, il fallait vraiment que j'évite.
La vasodilatation dont j'ai parlé tout à l'heure est une vasodilatation locale, ce n'est pas une vasodilatation générale. Mais par exemple, vous avez une plante qui serait très bien pour vous, qui est à la fois aphrodisiaque et en même temps hypotensive, c'est le romarin.
D'accord.
Le romarin est une excellente plante, puis ça c'est facile à trouver, hein. Vous pouvez même en avoir dans votre jardin. Hein.
Oui.
Bon, vous prenez les infusions de romarin, ça va vous stimuler, en même temps ça va faire baisser la tension. Et si vous voulez avoir une action complémentaire, vous rajoutez quelques feuilles d'olivier, et là vous aurez un régulateur tensionnel, en même temps qu'un régulateur du sucre et du cholestérol, oui, les trois en un. C'est ça l'avantage des plantes aussi. Ouais. C'est qu'un médicament, et regardez encore, on a parlé il y a quelques semaines là, d'un nouveau médicament encore interdit bientôt sur le marché contre les vomissements et les nausées.
Oui.
Les plantes, à condition de respecter les contre-indications, bien sûr, ne présentent pas ce risque parce qu'elles n'ont pas qu'un principe actif. C'est tout un totem végétal qui est actif par rapport à l'homme et c'est, pour un mauvais jeu de mots, c'est naturel.
À quelle fréquence doit-on consommer les plantes aphrodisiaques pour qu'elles fassent de l'effet ?
Ben, ça dépend du trouble. Si c'est un trouble d'hormonal, il faut le prendre, il faut faire une cure de 3 semaines. Faire une cure de 3 semaines.
D'accord, mais ces 3 semaines, c'est
à
tous les soirs.
2 à 3 infusions par jour.
Ah,
si
ouais,
on
quand
le prend.
Même.
Ah oui, quand même. Bah oui, parce que c'est un aspect doux. C'est pas un booster.
Oui, oui.
C'est pas un Viagra vert. Hein.
Ce sont des cures, en fait.
Ce sont plus des cures. Et après, je vous dis, il y a des préparations qui peuvent avoir un effet de boost. Mais en général, il faut associer les deux.
Très bien. Nicole, autre chose ?
Non, c'est parfait. J'ai la réponse à ma question.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour et puis une belle santé. Et puis, merci en tout cas. Et puis, joyeux 1er mai. Bah, vous voyez, c'est pas facile à dire. Joyeux 1er mai, Nicole.
À vous de même.
Et à très bientôt. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir, Nicole.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Eh bien, on sent le désir qui monte, docteur Labesca. Non mais...
Comment dois-je le prendre ?
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait, on se rend compte à quel point d'une façon naturelle aujourd'hui, mais ça, vous avez déjà reçu sur les plantes, on se rend compte que le naturel a des vertus qui parfois sont totalement insoupçonnées et très fortes. Et aujourd'hui, avec vous, on parle des plantes aphrodisiaques. Alors, on se rend compte quand même, moi, je trouve qu'il faut donner de sa personne, hein, c'est-à-dire 3 tisanes par jour pendant 3 semaines avant que ça puisse faire de l'effet.
On a les réponses en soi, mais tout n'est pas acquis. Hein. D'ailleurs, ce qui est acquis trop vite...
Oui, on n'en profite pas tant que ça.
Ça vaut pas. Là, ça vaut
d'accord.
Pas
Docteur Labesca, les hommes adorent, enfin certains hommes d'ailleurs adorent, certaines femmes aussi, mais boire de la bière. Et moi, j'ai entendu des hommes dire que c'était vraiment bon pour leur vitalité sexuelle. C'est vrai, ça ?
Non, parce que normalement, les côtes de houblon sont œstrogéniques. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs chez la femme à condition qu'elle soit en activité gynécologique, enfin qu'elle soit en activité sexuelle. Parce que ainsi, les ramasseuses de houblon en Alsace peuvent avoir une apparition de leurs règles prématurément.
Ah, c'est fou.
Parce
ça.
Que c'est œstrogénique. Le code de houblon est œstrogénique. Quant à avoir une action. Non, l'alcool en général est plutôt. Il est peut-être anxiolytique, mais il est plutôt inhibiteur.
Ok, mais pour les hommes, la bière, alors si c'est un stimulant pour les femmes, oui, mais ça n'en est pas un pour les hommes.
Non, ça n'est pas un pour les hommes du tout. Puis il faut toujours consommer avec modération.
Évidemment, on est tous d'accord. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des plantes ennemies du désir ?
Antilibido.
Ou du plaisir, oui.
Antilibido, oui.
Oui, parce
le
que on parle de celles qui nous boostent.
Allez, on va dire anaphrodisiaque.
Ouais.
Les plantes anaphrodisiaques, oui, le saule.
C'est quoi le
saule ? Le saule, c'est l'écorce de saule.
Les pleureurs.
Vous savez que le saule, c'est ce qui a donné naissance à l'aspirine.
Ok.
Voilà. Dans le saule, on a trouvé de l'acide salicylique, qui est devenu l'acide acétyl salicylique, donc l'aspirine.
Et alors ça, par exemple.
Et le saule, l'écorce de saule, oui, elle est inhibitrice. Elle est inhibitrice au niveau sexuel.
Elle coupe tout.
Elle, oui, enfin, entre guillemets, oui.
Bon. Mais des tisanes de saule, ça n'existe pas, ça.
Des décoctions de saule, ben,
qu'est-ce qu'on fait
Bien sûr que si, ça existe. Pourquoi ?
Ben non, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait comme quels sont les effets du saule, autre que d'être anaphrodisiaque ?
Alors après, non, ben ça a tous les effets circulatoires. C'est-à-dire que ça a tous les effets de l'aspirine.
Okay.
C'est antalgique, c'est anti-inflammatoire
bon.
et c'est anaphrodisiaque.
Voilà, donc c'est bon pour certaines choses pour la santé, mais en revanche pour le désir, il n'y a plus rien.
En revanche, si vous avez les rhumatismes et oui. Que vous avez une panne sexuelle, c'est le curcuma qu'il faut prendre, parce que le curcuma est aussi anti-inflammatoire, mais stimulant sexuel, vous voyez ?
D'accord.
On a une solution pour chaque problème, presque.
Toutes ces plantes, alors, on peut aller les ramasser soi-même ? Il y a des guides comme ça pour pouvoir les reconnaître ? C'est un peu comme les champignons, il faut aller faire vérifier quand même auprès du pharmacien ?
Vous savez, Jean-Jacques Rousseau allait ramasser ses plantes derrière le château de Vincennes. Maintenant, on en trouverait d'autres plantes. Plus les mêmes, peut-être. Hein. Et bon, mais oui, on peut les ramasser bien sur soi-même. Et on peut demander aux pharmaciens, puisqu'ils ont maintenant l'exclusivité des plantes médicinales, si notre connaissance est bonne. Parce qu'il y a quand même des erreurs. Par exemple, la gentiane, il ne faut pas la confondre avec le vératre blanc. Comme on utilise les racines, quand tu utilises une plante qui n'est plus en fleur, reconnaître la racine, ce n'est pas toujours simple.
Okay.
Donc attention, et puis la gentiane par exemple est interdite de ramassage dans beaucoup de régions.
Pourquoi ?
Eh bien parce qu'elle est protégée, c'est un espace protégé. Okay. Parce qu'elle servait pour faire le fameux vin de gentiane, ou l'apéritif.
D'accord, et ça a été particulièrement criminel pour la gentiane ?
Eh oui, puisqu'il y a la moins.
Okay.
Y a la moins.
Donc on peut les ramasser, on ne les trouve pas partout j'imagine.
Il faut les ramasser... En pleine forêt, dans les endroits qui ne sont pas pollués, pas au pied des centrales, évidemment, de combustion de déchets. Hein. C'est mieux, pas au bord des autoroutes. Mais on peut les ramasser soi-même, et bien sûr, c'est efficace. Et puis, c'est une bonne préparation pour les grands-parents pour amener ses petits-enfants à ramasser les plantes.
Ah, ce sont des moments qu'on passe ensemble, comme quand on va
et
chercher
après,
escargots.
On peut faire des tisanes, on peut faire des vins.
Alors, quand on ramène ces plantes à la maison, alors elles sont fraîches, j'en fais quoi ? Comment je les fais sécher ?
Eh bien, justement, alors c'est là où il y avait les herboristes qui avaient des séchoirs. Effectivement, il faut les mettre à sécher. Alors certaines, comme le coquelicot par exemple, moi je conseille de les passer, alors c'est pas très, très écologiquement correct, de les passer au micro-ondes. De passer les pétales.
Je vais ramasser des coquelicots, j'enlève les pétales,
les
mets au micro-ondes.
On les met au micro-ondes et comme ça elles gardent leur bonne teinture rouge
ouais.
Et elles sèchent très vite.
Et j'en fais quoi ?
Et elles
quoi
ne
après
perdent pas. Ben après, vous les mettez en sachet et vous les gardez à l'abri de la lumière. Et vous prenez des tisanes de coquelicots, par exemple à l'enfant qui a du mal à dormir
ouais.
Ou qui tousse beaucoup. Vous savez que la loi des signatures est quand même merveilleuse. La coqueluche, où on tousse beaucoup, est traitée par le coquelicot.
Ouais, c'est
avec
marrant.
La même définition. C'est incroyable, comme il y avait des raccourcis de l'histoire qui sont fantastiques.
Donc on fait sécher les pétales de coquelicot au micro-ondes, on fait sécher ces plantes, et ensuite on peut les garder combien de temps quand elles sont sèches ?
On les garde 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Si on en huile, plus longtemps. En huile, mais fraîche, sèche, pas très longtemps, parce qu'après, elle risque de s'altérer. Et il faut bien les mettre à l'abri de la lumière et à l'abri de l'air.
Vous conseillez à tous nos auditeurs quand même d'aller faire vérifier que ce sont les bonnes plantes auprès
d'un
pharmacien.
Toujours, parce que vous dites, on peut faire confusion. Il n'y a pas beaucoup de plantes toxiques. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il suffirait de tomber dessus. Hein.
On se retrouve dans un instant. Je vais vous donner les références de l'ouvrage du docteur Labesca. Je vais vous parler également du programme émouvant de lundi. A tout de suite avec vous sur RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Une fois de plus, vous avez appris beaucoup de choses grâce à En effet pour s'entendre. Docteur Jacques Labesca, je vous remercie d'avoir été notre invité. Je rappelle donc vos ouvrages, Les plantes du désir chez Ulmer et Ces plantes qui écrivent l'histoire chez Enfortas. Voilà, après les plantes n'ont plus de secret pour nous. Merci docteur, à la prochaine alors.
Merci à vous et bon courage.
Alors. On parlera toujours des plantes. Oui, bon courage. Pourquoi bon courage?
Bon week-end, exactement. Parce qu'on est vendredi, bon week-end.
Exactement. On embrasse Thelma d'ailleurs. Hein. Thelma, n'oubliez pas de nous donner des nouvelles suite à votre week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi à 15h pour un tout autre programme parce que nous allons parler de l'adoption. Nous donnerons la parole au 3210 et nous vous la donnerons si vous souhaitez partager avec nous votre parcours du combattant. Si vous souhaitez également donner de l'espoir à ceux qui sont en plein dedans, car au bout, il y a beaucoup d'amour, mais il faut souvent passer par des moments difficiles qu'on partagera avec vous. Donc dès lundi à 15h sur RTL. Tout de suite, ça fait longtemps que vous les avez adoptés. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. À lundi. RTL, il est 16h.